Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Salut! Sur le plateau de la collective aujourd'hui, nous voilà enfin réunis avec Alizé. Salut Alizé.
Salut.
Et Vanessa.
Salut.
Aujourd'hui, on va parler essentialisation. J'avoue, la première fois que j'ai entendu parler de l'essentialisation par des militantes féministes de mon entourage, c'est comme la première fois où j'ai entendu parler de trotskisme. J'ai opiné du chef, j'ai pris un air de connivence et je me suis ruée sur l'ordi en rentrant pour aller demander à Wikipédia de quoi il s'agit exactement. En vrai, même si pour l'essentialisme on ne connaît pas ce mot, on sait toutes et tous, plus ou moins, de quoi il retourne. Parce qu'il y a un tas d'exemples concrets auxquels on a forcément été confrontés, garçon ou fille, une fois dans notre vie. Du coup, pour des exemples parlants, on va écouter Vanessa qui se propose de nous emmener dans son petit théâtre du quotidien.
Et oui, quand Hello a proposé une émission sur l'essentialisation, je dois avouer que j'étais super contente. Ça me faisait encore une occasion pour vous raconter ma vie et mon enfance à Bourg-en-Bresse dans les années 90. Alors, on ne parlait pas trop de féminisme à la maison, et à 6-7 ans, bien sûr, j'avais jamais entendu parler d'essentialisation. Mais ce que je savais, c'est que je détestais les poupées, que mon plus grand rêve était d'avoir très vite 16 ans pour passer mon permis de chasse, que j'aimais bien ma voiture télécommandée, et encore plus me battre contre Charles Chamoun, mon ennemi de la cour de récré. Je détestais les robes à fleurs que ma mère adorait me faire porter, et je passais beaucoup de temps à les salir en cherchant des vers de terre pour ma poule noirette. Bref, j'étais ce qu'on appelait alors un garçon manqué. Ça, c'était ce que disaient les adultes. Moi, j'avais pas spécialement envie d'être un garçon, et je me sentais pas non plus manqué. Puis j'aimais bien aussi faire de la danse, j'avais des posters de chevaux plein ma chambre, et j'écrivais mon journal intime. Bref, les trucs normaux de fille. De toute façon, je sentais qu'il fallait se méfier de ce que disaient les adultes. Par exemple, ça me rendait folle de les entendre s'exclamer « Oh, comme tu es jolie !» ou « Oh, quelle jolie petite fille !» Je vous jure, à 8 ans, je lisais pas Simone de Beauvoir en cachette dans ma chambre, mais j'imagine que je sentais l'arnaque qu'il y avait à être la jolie petite fille. Peut-être que c'est parce que je voyais bien qu'à mon cousin Guillaume, on disait plutôt « Waouh, comme il est fort ce petit garçon et comme il court vite !» Et puis surtout, on l'obligeait pas à mettre des robes à fleurs. N'ayant donc pas accès à la littérature féministe, j'avais trouvé une solution radicale et assez personnelle à ces questions de genre, en décidant que je n'étais pas une petite fille mais un lion. Je me mettais à quatre pattes et rugissais dès qu'on me disait que j'étais jolie. Je hurlais alors « Je suis pas jolie, je suis pas une fille, je suis un lion ». Ça faisait un peu rigoler mon père, mais pas trop le reste de la famille. Et petit à petit, les adultes m'ont moins fait le coup de la jolie petite fille. Faut dire aussi que ma mère a fini par lâcher l'affaire des robes à fleurs et que j'ai pu porter des survêtes avec de la boue plein les genoux et avoir une coupe courte, semant le doute parmi les adultes qui se demandaient alors si j'étais une fille, un garçon ou un lion. Mais après, il y a eu les années collège, où ça a semblé être une préoccupation essentielle pour tout le monde de savoir si j'étais fille ou garçon. J'avais alors abandonné le concept du lion, j'avais bien vu que c'était trop novateur pour le lieu et l'époque. J'avais beau bien aimer me battre et avoir la coriace comme surnom en primaire, ben en vrai, j'ai pas tenu le choc des moqueries et je suis rentrée dans le rang. J'ai laissé pousser mes cheveux, mis des crop tops, ouais, ça existait déjà à Bourg-en-Bresse et on en faisait pas tout un flanc à l'époque. Et j'ai décidé de tomber amoureuse d'un garçon, de Mick Jagger en l'occurrence. Là, je fais ma maligne pour vous faire rigoler, mais en vrai, c'était pas très marrant. Au passage, je suis devenue timide, je me suis mis à avoir la voix qui tremblait quand il fallait parler en public, j'ai eu peur du regard des autres, peur de me battre, peur d'être différente. Bref, j'ai l'impression d'avoir subi un dressage et d'être sortie du collège transformée en vraie fille. Je vais pas vous faire le résumé des 25 années qui ont suivi, parce qu'on a une émission à faire. Mais je dirais juste que j'ai passé beaucoup de temps à me sentir étouffée par des attentes, des présupposés, des préjugés qui me tombaient dessus et qui semblaient être liés au fait que j'étais née avec un vagin. Et pendant longtemps, le féminisme ne m'a pas semblé être un allié dans l'affaire. Ce que j'entendais du féminisme, c'était des « nous les femmes, en tant que femmes ». Moi, je voulais pas entendre ça. Je voulais pas être rappelée au fait que j'étais une femme. En plus, j'étais un lion, bordel. Et puis, les féministes parlaient d'inégale répartition des tâches ménagères, des violences conjugales, des féminicides. Moi, je voulais pas être une victime, je voulais pas être celle qui fait le ménage, je voulais pas écouter ces histoires de féministes. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une coloc un peu plus avancée que moi, qui m'a parlé d'essentialisme, qui m'a expliqué qu'appliquée à la question des femmes, ce serait l'idée que toutes les femmes, dans leur essence même, sont quelque part semblables. Que toutes les femmes, parce qu'elles sont femmes, vont partager des caractéristiques communes qui seraient, dans notre société, oui, parce que la blague, c'est que les femmes sont toutes pareilles, mais suivant les sociétés, c'est pas tout à fait pareil. Donc, dans notre société, ce serait par exemple avoir l'instinct maternel, aimer prendre soin des autres, être douce, être attirée par les hommes, être soigneuse, être peureuse, être fragile, adorer faire le ménage, être nulle en maths, etc. Et c'est l'idée que toutes ces caractéristiques seraient naturelles. Waouh ! Enfin, j'avais un mot, un concept pour parler de tous ces trucs que j'avais l'impression qu'on m'avait collé sur le dos à coups de robe à fleurs, de jolies petites filles et de tout le reste. Tous ces trucs avec lesquels je me débattais depuis tant d'années, tous ces trucs existaient, avaient un nom. Tous ces trucs qui, à force d'être répétés, avaient fini par avoir raison de mes cheveux courts et de ma langue bien pendue, c'était l'essentialisation. Ça a été une sorte de révélation, qu'un mot défini, ce que je ressentais le rendait réel, palpable. Ma coloc m'a parlé de Simone de Beauvoir et de sa phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase, elle racontait tellement mon collège. J'étais pas née fille timide avec une coupe au carré. Je l'étais devenue après avoir dû renoncer à la gamine Lyon au survêt plein de boue. À partir de là, le féminisme prenait du sens. Le « nous » des féministes ne me définissait pas par le fait d'être née avec un vagin, mais par le partage d'un vécu commun. Et le combat féministe m'apparaissait pour ce qu'il était, un combat libérateur pour retrouver ma langue bien pendue des années 90 et lutter pour que les gamines, les gamins et les lions de Bourg-en-Bresse et d'ailleurs puissent ou non porter des robes à fleurs, parler trop ou pas assez, être fort et forte ou fragile, indépendamment du fait d'avoir ou non des vagins.
So damn pretty, staircase in a crack filly, little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes, pop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I'll take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. That girl is a tomboy, that girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy.
therapy. He's so in love, he thinks it's a spell. This love is too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought though is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls, he'll be acting real rowdy.
C'était Tomboy de Princesse Nokia. Parmi les chanteurs et chanteuses qui ont bercé mon enfance, il y a Renaud. On le sait bien, ça fait au moins 20 ans qu'il ne faut plus écouter ses nouvelles chansons. C'est la cata. Mais on garde parfois pour les vieilles un attachement un peu nostalgique et de Renaud, l'image d'un gentil voyou anti-système. Mais bon, il suffit d'écouter un morceau comme Miss Maggie pour se dire qu'en fait, c'était déjà souvent craignos et qu'on a baigné là-dedans au point de chanter à tue-tête des trucs bien gênants. Miss Maggie, c'est un très bel exemple d'essentialisme. Alors maintenant, analyse de texte. Pour se rafraîchir la mémoire sans risquer l'indigestion, on va la réécouter, mais extrait par extrait.
Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher.
Bien sûr, Madame Thatcher représente une politique de merde, fer de lance de l'ultralibéralisme. Mais justement, elle doit être attaquée sur ses idées et pas sur son genre. À l'époque, elle faisait figure d'exception, mais simplement parce qu'elle était une des rares femmes politiques au pouvoir dans le monde occidental. Pour rappel, la première femme politique à occuper un poste de pouvoir similaire en France fut Edith Cresson en 91, alors que la chanson de Renaud date de 85. Moralité, les femmes n'abusent pas de leur pouvoir politique par essence, c'est simplement que jusqu'alors, elles n'y avaient pas accès.
Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher.
Bon, là je vais devoir faire une révélation de la honte. C'est bien pour servir le féminisme que je me lance. Pendant très longtemps, et il y a encore très peu de temps, mon comportement en voiture était loin d'être exemplaire. Quand la colère montait, c'était au mieux doigt d'honneur et chapelet d'injures qui s'échappaient de l'habitacle. Au pire, j'allais jusqu'à sortir de la voiture, prête à en découdre, n'ayant aucun doute sur ma capacité à terrasser quiconque se trouverait en face de moi. Ça ne fait pas de moi, moins une femme, juste une personne qui a devant elle une grosse perspective d'amélioration en termes de comportement.
Femme, je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles.
Si les femmes ne sont pas associées aux guerres et à la violence, en tout cas pas en tant que personnes susceptibles de l'exercer, n'en déplaise à Renaud, ce n'est pas parce que le pacifisme est ancré dans nos gènes. Ainsi, dans Les femmes et la guerre, une approche historique, Irène Herman et Daniel Palimieri nous rappellent que
à l'image de ce qui se passait dans certaines sociétés traditionnelles amérindiennes, la gente féminine a souvent été mobilisée en cas de guerre, que ce soit de façon symbolique, en pratiquant des rituels censés apporter la victoire, ou de manière pratique, en participant directement à la préparation des expéditions militaires ou en s'occupant de leurs conséquences, soins aux blessés, surveillance des prisonniers. Leur participation directe dans les combats reste cependant relativement rare, même si des guerrières existent dans certaines nations indiennes, Delaware, Navarro, Cheyenne. Cette absence s'expliquerait surtout par une division sexuelle de l'usage des objets. Ainsi, si la guerre ne serait pas formellement interdite aux femmes, elles n'auraient toutefois pas les moyens réels de la faire, car les hommes seuls conserveraient le monopole des armes. Cette explication permettrait au passage de saisir combien ces légendaires femmes combattantes par excellence que furent les Amazones ont marqué les esprits, du fait justement qu'elles possédaient des attributs guerriers réservés jusque-là uniquement aux hommes.
Les femmes ont aussi participé, et participent encore de manière indirecte, aux guerres, et Bell Hooks nous le rappelle.
Nous devons rappeler que quand elles y sont appelées en temps de crise nationale, les femmes se battent au combat et ne sont pas forcément opposées à la guerre. Nous devons aussi nous rappeler que la guerre n'implique pas uniquement le combat, et que l'effort des femmes, sur le front intérieur et loin des premières lignes, a contribué à faire la guerre.
Et aussi que
historiquement, les femmes blanches états-uniennes qui ont lutté pour les droits des femmes n'ont pas vu de contradiction entre leur combat et le soutien à l'entreprise impérialiste occidentale visant à conquérir la planète.
Une fois de plus, il semble que la soi-disant prédisposition des femmes ou des hommes à l'égard de la violence soit surtout reliée au fonctionnement d'une société en particulier, plutôt qu'à un instinct. Et pas sûr que les hommes soient beaucoup à frémir d'impatience à l'idée d'aller au front et servir de chair à canon, même si cette peur se doit de ne pas être exprimée s'ils veulent rentrer dans le moule de l'homme viril.
Femme, je t'aime, surtout enfin, pour ta faiblesse et pour tes yeux.
Pour ta faiblesse et pour tes yeux, femme, je t'aime. Renaud a un très gros cœur, capable d'aimer toutes les femmes qui peuplent la Terre, sauf Margaret Thatcher, bien sûr. Nous sommes, semble-t-il, toutes douces aux yeux de biche et faibles, sauf Madame Thatcher. C'est bien notre supposée faiblesse qui rassure Renaud, révélant par là dans quel rapport de domination il se situe. On profite aussi de cette chanson, Renaud, tu n'es pas le seul sur le coup, loin de là, mais c'est toi qui prends pour les autres, pour clarifier notre position féministe vis-à-vis de toutes ces chansons qui sont censées célébrer les femmes. Faire une chanson pour les femmes ou la femme en les glorifiant, en pointant des aspects de leur personnalité qu'elles sont censées posséder, ça ne nous aide pas, ça nous dessert. Nous exigeons des droits, non pas parce que nous serions exceptionnels, dévoués ou formidables, mais juste parce que nous sommes partie intégrante de l'espèce humaine. Plus clairement, on veut des droits, pas des hymnes.
Bon, mais diriez-vous, les différences entre hommes et femmes, on peut en observer plein au quotidien. Par exemple, plus de femmes se maquillent, portent des robes, occupent les professions d'institutrice, infirmière, orthophoniste. Plus d'hommes vont voir des matchs de foot, sont plombiers, PDG, flics ou sénateurs, regardent la télé au lieu de passer l'aspirateur. Plus d'hommes commettent des violences envers les femmes. Le problème de l'essentialisation, c'est de naturaliser toutes ces différences, de faire croire qu'elles vont de soi, comme s'il existait un gène de la télé et des hormones de l'aspirateur.
Les discours essentialistes vont très souvent faire appel à la science, ou plutôt donner des atours scientifiques à leurs propos. À ce sujet, la chercheuse Odile Fillot fait un travail incroyable dont elle parle très bien dans le podcast Méta de choc, les hommes, les femmes, Mars et Vénus. Ces 5 heures d'émission qu'on vous conseille vivement d'écouter, et sans rien spoiler, elle nous explique comment tant de chercheurs et chercheuses cherchent depuis tant d'années à prouver scientifiquement qu'il existe des différences psychologiques entre hommes et femmes qui seraient liées à des différences biologiques, mais que jusque-là, ils et elles ont fait chou blanc. Par contre, ce qui a été démontré, c'est que l'on pouvait, à force d'habitude à l'échelle d'une vie ou de plusieurs générations, développer certaines capacités physiques ou psychiques. Par exemple, le fait de laisser plus de temps ou de moyens aux garçons pour s'entraîner à certains sports ou faire des tâches informatiques, ça va évidemment développer des aptitudes. À plus grande échelle de temps, les corps ont aussi évolué à travers les âges, en fonction des activités, de l'alimentation, mais aussi des critères esthétiques existants dans chaque société. On va écouter Odile Fillot sur les dangers de l'essentialisme.
Moi, ce qui m'embête tout particulièrement, c'est la récurrence de ces discours qui se prétendent fondés scientifiquement. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne cesse de dire, voilà, on le sait, c'est vrai, prouvé. C'est sûr. Et donc, en faisant ça, on est en train, finalement, de maintenir des représentations de ce que c'est qu'un homme, une femme, de ce que c'est qu'un comportement normal de petite fille, de petit garçon. Et donc, on est en train de renforcer toutes ces normes sociales dont, encore une fois, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elles existent. On ne sait pas si elles expliquent tout, mais en tout cas, on sait qu'elles contribuent à enfermer les gens dans des rôles qui sont assignés à leur sexe. Ça contribue à créer un environnement qui est stigmatisant pour les gens qui ne sont pas conformes aux normes de leur sexe. Donc, typiquement, quelqu'un qui n'a pas l'orientation sexuelle attendue de son sexe va être fortement stigmatisé. Ça crée un environnement qui est propre aussi à encourager certains comportements genrés qui sont particulièrement délétères. Par exemple, si on ne cesse de dire « Ah mais oui, c'est naturel que les hommes, ils ont tout le temps envie de coucher avec n'importe quelle femme qui passe sous leur nez, puis c'est dans leur nature, ils ont des besoins, ils peuvent pas s'en empêcher. Bah, » Concrètement, c'est un discours qui contribue à encourager ce genre de comportements de harcèlement sexuel, etc. Parce que, voilà... Non seulement un garçon ou un homme va penser que c'est normal d'agir comme ça, mais c'est même plus que ça, il va être incité à le faire pour montrer qu'il est un homme, un vrai, ça va être ce qu'on appelle des étendards de masculinité. En fait, je dois montrer que j'ai plein de conquêtes, que je suis toujours désirant, enfin voilà, si on parle par exemple dans le domaine sexuel, mais ça marche dans tous les domaines.
Que je suis conquérant.
Voilà, que je suis concurrente, etc.
Et viril.
Donc, en fait, ces discours, c'est pas la question de savoir juste comme ça, dans l'absolu, si c'est vrai ou pas. Ces discours, ils ont des conséquences concrètes. Ils renforcent, en fait, tout cet univers...
De croyances.
De croyances et de normes qui ont des effets concrets. Donc, pour moi, c'est très important de regarder de près et de démonter, quand ces discours sont prétendus bien étayée par des choses solides scientifiquement, je pense que c'est très important de mettre en évidence que ça n'est pas le cas.
Oui, surtout qu'il y a une part d'ignorance, mais comme tu le disais, il y a aussi une part d'instrumentalisation politique qui fait que, bah, effectivement, par exemple, à l'extrême droite, on va proposer des choses qui vont dans le sens idéologique sous couvert de science. Voilà.
Oui, absolument. Après, c'est pas forcément que l'extrême droite, on va dire, c'est la droite conservatrice. L'institution catholique, enfin le Vatican aussi, est vraiment très très actif dans l'instrumentalisation de ce genre de discours pseudo-scientifique. Enfin, on va dire globalement, toute la frange conservatrice, en fait, va évidemment vouloir justifier un statu quo, en fait, en disant bah, les choses sont bien telles qu'elles sont, la répartition des rôles, les différences en particulier de pouvoir, de revenus, etc., entre hommes et femmes, elles sont ce qu'elles sont parce que c'est la nature, il ne faut surtout pas essayer de changer quoi que ce soit.
L'essentialisation, ça ne s'arrête pas aux questions de genre. Ça peut par exemple toucher la race ou l'orientation sexuelle. Comme pour le genre, la science est souvent conviée pour naturaliser des différences. On ne va pas vous faire ici la liste des clichés racistes, mais juste rappeler que l'idée qu'il existerait des races naturellement différentes a conduit, entre autres, à l'esclavage et au génocide.
Ce que la science a très bien démontré, c'est la différence de perception et donc de traitement réservé aux enfants suivant leur genre. C'est ce qu'on appelle la socialisation différenciée, qui montre que les parents, les éducateurs et éducatrices ont des attentes différentes suivant le sexe des enfants. Par exemple, en 1976, les chercheurs Condry et Condry ont fait visionner à des étudiants un film dans lequel on voyait un bébé de 9 mois qui pleurait. Les étudiants avaient pour tâche d'interpréter les comportements du bébé qui était présenté dans 50% des cas comme une fille et dans 50% des cas comme un garçon. Après la diffusion du film, on interrogeait les étudiants sur la cause des pleurs du bébé. Très majoritairement, ils considéraient que la fille pleurait parce qu'elle était effrayée, tandis que le garçon était en colère. On le voit, l'essentialisation a des conséquences concrètes et quotidiennes sur nos vies. Et ces conceptions sont tellement ancrées en nous qu'on peine parfois à les identifier. La pensée queer nous aide en cela à faire un pas de côté.
Si une voyageuse débarquait dans notre société, sans rien connaître du tout de notre organisation sociale, un dialogue étonnant pourrait avoir lieu.
J'étais à ce que vous appelez la boulangerie ce matin. Il y avait une dizaine d'humains. J'ai demandé du pain, et là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Une personne m'a tendu une baguette en disant « Tenez, monsieur ». Et une autre s'est énervée en disant « Mais non, c'est une dame ». Tout le monde a eu l'air très stressé. Moi-même, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Est-ce que « monsieur » ou « dame », c'est une forme de titre ou de grade? Je me suis un peu rencardée avant de venir. J'ai vu que vous aviez des titres genre « duc » ou « roi ». Du coup, là, c'est la même chose?
Ah oui, c'est malheureux. Vous avez eu un coup de chaud. Ça arrive quand on découvre pour la première fois qu'on a un sexe.
Vous voulez dire des organes génitaux? Tout le monde n'en a pas?
Si, si. Mais il y a différentes formes, en fait.
Et ça sert à acheter du pain?
Non, non, bien sûr.
Je comprends rien.
Honnêtement, moi non plus.
Admettons. Mais du coup, on était tous habillés là. Donc comment on fait pour savoir qui a quoi?
Il y a des codes. En gros, chaque humain enfile une espèce de panoplie. Une coupe de cheveux, des bijoux, des parfums, des mimiques, des attitudes, des tons de voix plus aigus ou plus graves, pour donner des indices sur ce qu'elle a dans la culotte. Et comme vous, vous n'êtes pas entraîné, ben forcément pour les autres c'était pas clair en ce qui vous concerne.
Mais j'ai pas envie qu'on pense à ma nudité quand j'achète du pain.
Et oui, c'est sûr, c'est un peu intrusif. Mais vous avez quoi dans la culotte du coup?
Mais je vous emmerde!
Ben, désolée, c'est que contrairement à vous, moi je n'arrive pas à percevoir l'autre en tant que personne. Il faut vraiment que je vous classe selon votre sexe d'abord.
Ça va vraiment pas bien chez vous. Soit, procédons. J'ai un gland, un prépuce, une tige.
Ah, la tige, quelle longueur?
15 cm.
C'est un pénis. Vous êtes un homme.
15 cm, 11 cm internes et 4 externes.
Ah, c'est un clitoris. Vous êtes une femme. Bon, 4 cm externes, c'est un peu trop quand même. On vous aurait mutilé à la naissance si vous étiez née ici. Vous comprenez, il faut que ce soit clair, la longueur externe.
Mettons que je sois une femme. Vous m'aideriez à me faire repérer en tant que telle?
Oui, oui, oui. Je vous ferai un training accéléré. Vous pouvez commencer par regarder beaucoup de films. Ou même, en fait, toutes les images qui vous entourent. Vous verrez, il y a tout le temps les mots « homme » et « femme » sur les pancartes, avec les symboles adéquats.
Ça s'appelle pas « propagande ». J'ai vu ça quand je me suis éduquée sur vos idéologies politiques.
Bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous êtes une femme, il faut être stressée. Ça veut juste dire flipper plus ou moins continuellement. Vous serrez les fesses, vous croisez les jambes, vous portez les vêtements et les chaussures les plus inconfortables. Surtout quand vous croisez des hommes. Là, vous montrez le plus de stress et de docilité possible. Voix douce ou aiguë, l'air gêné. Pas les pieds ancrés dans le sol, plutôt en flottement ou perché. En gros, montrez que vous êtes soumise et que leur présence compte pour vous. Portez des bijoux, des parfums. Faites-vous petite, qu'ils puissent avoir l'impression qu'ils peuvent vous déplacer. Que leur regard vous fait exister et vous émeut. Créez une sorte de tension sexuelle et montrez un maximum de déférence.
Je veux plus être une femme.
Ah oui, ça... Mais c'est important parce que sinon ils vous punissent. Donc ça peut être des coups, une baisse de salaire, rentrer dans votre corps sans que vous le souhaitiez, un viol quoi.
Donc si j'ai bien compris, être une femme c'est avoir une position de merde pour éviter quelque chose de pire.
Merci beaucoup à Fanny et Jade pour la lecture de ce texte. Vous venez d'entendre l'introduction de l'essai « Sortir de l'hétérosexualité » écrit par Juliette Drouard.
Tout le monde aurait à y gagner, à réfléchir et déconstruire ces préjugés qui excluent hommes et femmes de certains rôles, métiers ou représentations. Alors couvrir nos champs des possibles n'interdit rien à personne. Et pour la société, c'est la promesse que chacun et chacune soit le plus épanoui possible dans la place qu'elle occupe. L'essentialisation hiérarchise aussi ses rôles, avec des situations assez avantageuses, voire carrément inégales, en faveur de tout ce qui a trait à des compétences considérées comme masculines. Tous les emplois reliés aux soins au sens large et à l'éducation, essentiellement occupés par des femmes, sont les moins valorisés et les moins bien payés, quand ce n'est pas carrément du travail gratuit pour celles qui s'occupent des enfants et de la maison. Il est donc urgent de repenser la valorisation de certains emplois ou rôles au regard des compétences qu'ils nécessitent et qui n'ont rien d'inné.
Mais comment il fait pour avoir des cuisses comme ça? Il est costaud, voilà tout, et puis le reste, on s'en fout. Il est costaud, voilà tout, et puis le reste, on s'en fout. C'est une distraction, il aime porter des poids. C'est un beau garçon, il est sûrement suédois. C'est une distraction, il aime porter des poids. C'est un beau garçon, il est sûrement suédois. Distraction, oui.
On vient d'écouter Distraction de Sexy Sushi. Bon, on a bien fait le tour du problème et maintenant, on fait quoi ?
L'éducation non genrée reste une des perspectives concrètes pour déconstruire les stéréotypes de genre. Et pas seulement sur les enfants concernés par cet outil, son effet se voit aussi sur les adultes qui les utilisent.
Alors, ça consiste en quoi ?
Depuis 2013, l'association de sociologues du genre Artemisia développe un ambitieux programme de recherche-action dans plusieurs crèches à Toulouse. Objectif, mettre le doigt sur les comportements des professionnels différenciant inconsciemment filles et garçons dans la prise en charge et proposer des alternatives. Cela fait partie du programme Égalicrèche. Écoutons Sophie Collard d'Artemisia l'expliquer.
On réfléchit ensemble à des solutions, on va réaménager l'espace, on va analyser ensemble de la littérature jeunesse pour pouvoir identifier les stéréotypes qui sont présents. On va réfléchir ensemble à des événements ou des jeux ou des activités à faire avec les familles pour sensibiliser aussi les familles pour qu'elles puissent du coup continuer ce chemin-là.
Ce n'est pas seulement à travers les vêtements ou les jouets non genrés que les stéréotypes trouvent naissance. Ils peuvent se nicher dans une foule de détails, de l'accueil à l'alimentation. Mais écoutons les professionnels de crèche formés avec Artemisia en parler au micro de Charlotte Bien-Aimée dans son podcast « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?»
Là, nous avons le réfectoire, donc où les enfants viennent se restaurer et pour le goûter. On fait attention un petit peu à ce qu'on propose aux enfants et aux quantités, puisqu'en fait, il a été remarqué que on servait en quantité plus importante les petits garçons par rapport aux petites filles, et de façon plus spontanée, on proposait aux enfants, donc aux petits garçons, de se resservir plus qu'aux petites filles.
Au départ, je me suis dit, bon, à quoi ça va servir ? On fait pareil avec les garçons comme avec les filles. Pour moi, c'était pareil, c'est-à-dire on accueillait un garçon comme une petite fille. Les parents, on les accueillait de la même façon. Et il me semblait que dans les jeux proposés, c'était aussi, il n'y avait pas de différence particulière. Puis c'est après, par la suite, en développant plus, et grâce aux observations de Dorian, de Artemisia, qui nous a ouvert les yeux.
Mais bon, sans en parler, on n'avait pas fait gaffe. Pas plus que ça.
Déjà, la petite fille, on fait beaucoup par rapport à son apparence physique, qu'elle a une belle robe, qu'elle est bien coiffée, dès son accueil. Et qu'alors qu'au petit garçon, non, on n'a pas tendance à le dire.
Moi, comme je vous disais ce matin, c'est vrai que quand je voyais une petite fille arriver, chaque fois je disais, oh, t'as une belle robe, t'as de belles couettes. Enfin, je le disais aussi aux garçons, mais peut-être pas... Oh, t'es tout beau aujourd'hui, mais t'as mis le gel, enfin... Voilà, j'essaie de faire attention maintenant, mais... Oui, c'est difficile, ouais. Je sais pas, c'est une habitude, quoi, enfin...
C'est très important pour eux, pour ce qu'ils vont ressentir, comment ils vont grandir, comment... La perception du regard de l'autre, c'est très important. Faut qu'on fasse un énorme effort, ouais.
Et puis c'est le côté répétitif, du coup, qui vient, que ça va être gênant. En soi, c'est pas gênant de dire à une petite fille qu'elle a une jolie robe ou qu'elle est jolie. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas uniquement ce message-là qui soit véhiculé. Et que le petit garçon, effectivement, il peut aussi avoir des compliments et qu'il a peut-être un beau t-shirt et pas forcément se focaliser sur le dinosaure qui est sur le t-shirt ou le Superman, mais vraiment l'habit en soi, quoi.
Vous l'aurez compris, il s'agit de prendre du recul. Il est plus facile d'intégrer les biais sexistes que de s'en débarrasser. Nous remercions aussi Aline Laurent-Maillard, parent non-binaire à l'origine du podcast Bienvenue U.E. Bébé, dont nous avons passé des extraits, que nous vous conseillons si vous avez envie de creuser le sujet de l'éducation non-binaire et vous exercer à combattre l'essentialisme.
Et maintenant, on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission. On ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais ne vous inquiétez pas, on a encore plein de trucs à vous raconter et des chansons des vulves assassines à vous faire écouter. En attendant, on écoute Mia, Bad Girls.
When I'm banging on the radio, yeah.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi, elle dit « mais la révolution fera le ménage ».